Devoir de Maya Couturier-Gestin. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a du travail. Vraiment, il y a beaucoup de choses, des connaissances. Il n'est pas question de contester cela. Hein. Je crois que tu as préparé ce devoir, c'est sérieux. Ouais. Mais seulement, tout n'est pas utile. Et c'est ça que tu ne comprends pas. Et l'essentiel du travail, c'est un travail d'analyse du sujet et de définition de ce que sont des enjeux politiques. Et là, tu ne fais pas ce travail-là. Donc, toute une partie de ton devoir est hors sujet, c'est-à-dire toute la partie où tu abordes la justice. Donc, c'est la deuxième partie, hein, la construction d'une mémoire grâce à la justice. Donc, je te mets dès l'introduction que c'est hors sujet. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la première partie, qui est plus adaptée au sujet, tu ne parviens pas à vraiment définir ce que sont les enjeux politiques. Tu abordes un petit peu la problématique, mais tu n'y parviens pas. Donc, c'est un travail d'approfondissement, de définition du sujet, plutôt d'abord, hein, définition du sujet qu'il faut faire face à un sujet de dissertation. C'est la partie d'analyse, de réflexion. On n'a pas vraiment besoin, dans l'immédiat, des connaissances, elles viendront après pour servir d'argumentation. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, un passé qui ne passe pas est une citation d'un historien qui révèle qu'il pouvoir s'appliquer à de nombreux conflits du XXe siècle. Bon, c'est pas très bien écrit. Alors, quand tu cites quelqu'un comme ça, un historien, ben, il faut l'identifier. Il s'agit d'Henri Rousseau, hein, historien français de la Seconde Guerre mondiale essentiellement. Et il parlait de Vichy. Hein, Vichy, c'est un passé qui ne passe pas. Donc la citation « Pourquoi pas » montre qu'effectivement, ce passé peu exploré par les historiens français pendant longtemps, parce que il avait provoqué une mémoire conflictuelle, hein, était peu exploré, et ce passé ne passait pas. Pourquoi pas, hein. Mais seulement, ce n'est pas très bien fait. Mais quels sont les enjeux politiques de l'histoire et de la mémoire? Donc, ici, je te dis, oui, bien sûr, hein, quels sont les enjeux politiques, mais c'est, si tu redis le sujet, alors il faut après les définir. Qu'est-ce que c'est qu'un enjeu? Un enjeu, c'est ce qu'on met en jeu, c'est ce qu'on a à gagner ou c'est ce qu'on a à perdre. Et donc, ici, c'est des enjeux politiques de l'histoire et de la mémoire des conflits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enjeu politique, surtout de la mémoire, hein? Donc, la mémoire, elle peut diviser, mais elle peut aussi rassembler. Et donc, je pensais vous avoir mis un petit peu sur la piste avec l'entraînement que l'on avait fait. Et ça, tu ne l'expliques pas du tout. Alors après, tu me mets bien les définitions de l'histoire, de la mémoire, je suis d'accord. Nous verrons dans un premier temps la pluralité des mémoires, hein, donc d'un même conflit, d'accord. Puis la construction d'une mémoire grâce à la justice, et là je me dis « Ah non ». Nous verrons dans un premier temps la pluralité des mémoires et montrer l'enjeu politique. Hein. Donc ici, c'est quoi? S'il y a une pluralité de mémoires, c'est qu'elles sont concurrentielles, c'est qu'elles s'opposent. Et donc, pour le pouvoir politique, l'enjeu est d'unifier, hein, donc qu'il n'y ait pas de conflit. Hein. Mais l'enjeu, face à une mémoire qui est collective, unanime, il y a un enjeu politique aussi, parce que derrière, il faut unifier, même en bafouant l'histoire. Je pense par exemple à la guerre d'Algérie, hein, où le FLN, donc, qui est le pouvoir politique, met en avant une mémoire guerrière de la guerre d'Algérie, hein, puisque c'est bien de ça qu'on parle, sans avoir donné la possibilité aux historiens de dire ce qu'ils avaient à dire sur ce mouvement-là. Mais d'ailleurs, tu as bien compris, parce que tu montres que le FLN a éliminé le mouvement de Messaliad, Mena. Alors, pour commencer, suite à certains conflits, les mémoires différentes émergent, ce qui donne lieu à des oppositions. Je te mets à des divisions, on y est. Et après, prenons l'exemple des causes de la Première Guerre mondiale, puis de la guerre d'Algérie. Tu commences plutôt bien. Hein. Alors, tout le début, tu n'as pas besoin de le dire. Hein. 28 juin, assassinat de François Ferdinand, ça c'est l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas ça qu'on voit. Hein. On fait l'histoire de la mémoire surtout. Hein. Et donc tu laisses tomber. Et puis en plus, notre sujet, enfin dans ton programme, ce n'est pas la guerre 14-18, c'est les causes, hein, de la guerre 14-18. Bon. Donc ici, c'est la question des responsabilités. Alors, je suis bien d'accord, hein, cet assassinat, c'est une cause immédiate, mais on n'avait pas besoin de, t'as pas besoin de tout raconter. Donc t'as pas besoin de faire ça. Et tu cèdes un petit peu aussi à ce défaut-là quand tu parles de l'ex-Yougoslavie et donc là, ou du Rwanda, tu fais toute une partie historique qui ne se justifie pas, t'as pas le temps. Hein. Donc si tu analyses bien les événements, bah, t'as pas besoin de les redécrire. Alors, à la fin de la guerre, l'enjeu politique, donc je suis toujours avec la guerre 14-18, hein, donc deuxième page, était d'établir les responsabilités. Bon, la conférence de Versailles, 1919, hein, donc ici, de janvier à juin 19, puisque l'armistice est le 11 novembre hein, 1918, nomma, désigna plutôt hein, l'Allemagne seule responsable des dommages causés. Et donc, les années suivantes, alors c'est là que ça ne va pas, plusieurs historiens se penchèrent aussi sur la question. Alors, Fritz Fischer, Christopher Clark, et puis après, tu mets d'autres historiens. Et donc là, c'est Gerd Krumreich, mais je ne t'en veux pas de ne pas avoir retenu son nom. Ce qui ne va pas, c'est que toi, je te mets date, quand, il faut que tu dises quand. La thèse de Fritz Fischer, on est dans les années 1960. Christopher Clark, on est donc au 21e siècle. Hein, donc voilà, on n'a pas besoin d'être trop précis. Et puis peut-être que tu aurais pu parler des historiens français de l'entre-deux-guerres comme Pierre Renouvin ou surtout Jules Isaac. Hein. Donc chronologiquement, Isaac, Fischer, si tu veux, Clark, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, la thèse de Fischer ? D'accord, hein, donc ici, d'accord. Alors, c'est quoi, pourquoi est-ce que cette thèse, donc, elle vise à démontrer que l'Allemagne a déclenché ? Alors, quel est l'effet que ça donne ? Eh bien, de cette, c'est une, ici une histoire qui va donc heurter de plein fouet la mémoire de la Première Guerre mondiale des Allemands, hein, qui reste toujours quand même sur l'idée que bah, ils sont pas les seuls responsables. Et là, bien, cette thèse, elle provoque, hein, donc elle crée de la division. Hein. Christopher Clark, lui, essaye de nuancer. Hein, donc, à un moment où on a quand même, les historiens ont beaucoup travaillé et montrent que finalement la Russie et la France aussi hein, donc, ont été responsables. Et puis, donc ben là, la conséquence, c'est que du point de vue politique, les Allemands sont plutôt contents. Hein, et ça vient conforter le fait qu'ils se redécouvrent comme puissance après avoir été réunifiés, hein, puisque ça se passe après la réunification, hein, on est au 21e siècle. D'autres historiens. Donc, plus récemment, mettre en avant des responsabilités partagées. Alors, tu dis, bah, pourquoi comment est-ce que l'histoire contribue ici à l'enjeu politique de la mémoire ? Bah, c'est une mémoire plus consensuelle, dans un cadre international et européen surtout, où, voilà, dans le cadre de la construction européenne, bah, on voit que finalement, les choses sont plus partagées, les responsabilités sont plus partagées, et donc ça va permettre donc une espèce de consensus, hein, donc ici. Et là, toi, tu dis réconciliation franco-allemande. Bon, là, c'est bien vu. Hein, voilà. Alors, tu passes après à l'Algérie. Alors, les conflits mémoriels, c'est en France surtout qu'ils ont lieu, parce qu'il n'y a pas de conflit mémoriel en Algérie, puisque le pouvoir du FLN, qui est le seul parti au pouvoir depuis 1962, hein, il y a d'autres partis politiques, mais c'est le seul qui est le pouvoir depuis 62, eh bien, a imposé une mémoire officielle. Hein, donc il n'y a pas de conflit mémoriel, puisque la mémoire, elle est unanime. Hein. Alors, là, tu me racontes un petit peu, c'est une guerre d'indépendance plutôt qu'indépendance. Voilà, on n'a pas besoin de ça, hein, la Toussaint Rouge, laisse tomber. En France, cette guerre est minimisée. Alors, oui, tu cites Stora, donc ce qui montre que tu as travaillé. Hein, donc, une guerre ensevelie, enfin, faite pas reconnue, tu as raison. Hein, on parle de pas de processus de réorganisation, mais d'opération. Je ne sais pas ce que, ouais, où tu as vu ça. Bon, bah, peut-être, mais... On fait taire les opposants, comme Maurice Audin. Mais toi, là, tu confonds mémoire et histoire. Parce que tu parles d'après, puis là, tu reviens à Maurice Audin, donc, qui a été torturé et qui a succombé à la torture. Hein, donc là, on est... donc dans les années 50, à partir de 55, les appelés français, tu vois, c'est une histoire, donc confusion, voilà, laisse tomber la guerre d'Algérie et donc passe à la mémoire. Du côté algérien, il n'existe qu'une seule mémoire, oui, le FLN, d'autres groupes comme le MNA sont bien, ne sont même pas évoqués, et les harkis, bien sûr, sont considérés comme des traîtres, c'est bien ça. Alors, suite aux accords d'Évian, le 1962, les harkis sont pourchassés, pourquoi tu reviens à l'histoire ? C'est pas la peine. Hein. Donc, ici, les harkis sont considérés comme des traîtres. D'ailleurs, tu peux dire, d'ailleurs, une partie d'entre eux a été exécutée en 62. Voilà, ça aurait fallu peut-être argumenter comme ça. Les mémoires émergent considérablement à partir de 1990, ou du moins les mémoires des différents groupes s'opposent. Hein, et donc, voilà, en France, hein, d'accord. Donc les pieds noirs, les harkis. Alors les pieds noirs ne demandent pas d'indemnité, hein, mais plutôt les harkis. Hein, et des politiques mémorielles sont mises en place par le pouvoir qui ne tient pas à ce que cette mémoire continue à diviser. Il veut une mémoire, des mémoires qui soient réconciliées. Donc le monument de Paris, d'accord. Hein, donc sur les berges de la Seine, hein, donc ici Quai Branly, qui est un monument consensuel qui fait référence à peu près tout le monde, hein, donc civils, militaires, y compris harkis. Hein. Un rapport commandé par le pouvoir politique, hein, pour essayer de... à un historien, hein, donc c'est bien que tu aies retenu son nom, hein, voilà. Hein. Alors par contre, je ne suis pas d'accord sur le procès Papon et Massu. Il n'y a pas eu de procès Papon et Massu sur la guerre d'Algérie. Le procès Papon, c'est sur Papon qui signe des arrêtés de déportation, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, et Massu n'a jamais été traduit en justice. Hein. Donc là, tu te trompes. Hein. L'accord sur la fin de la guerre permet l'apaisement des tensions. Mais non, là, tu confonds encore histoire et mémoire. L'accord sur la fin de la guerre permet la fin de la guerre d'Algérie. Point. Hein, voilà. Et donc, après, bah, évidemment, tu reviens sur les contestations. Là, tu confonds histoire et mémoire. L'enjeu politique est, j'imagine, est d'assouvir le besoin de reconnaissance des différents groupes en France, hein, et d'entendre toutes les mémoires pour avoir, hein, effectivement, un consensus, une unité, hein, sur la guerre d'Algérie en France, bien sûr. Alors après, tu es parti sur la justice, donc tu racontes, hein, ce que c'est que le Rwanda, tu racontes ce qui se passe en ex-Yougoslavie. À la fin de la deuxième copie, là, tu vois la première page, donc page numéro 5, tu dis que les 6 républiques de Yougoslavie sont réunies, mais non, il n'y a pas de république en 1918, hein, après la Première Guerre mondiale. Là, tu te trompes. Hein. Et puis là, tu es hors sujet, tu es dans la justice. Et donc là, c'est autre chose. Hein. Donc on est dans l'axe 2. Et tu n'as pas besoin de tout ça. Et pourtant, il y a des connaissances. Hein. Je vois bien que c'est vu. Hein. Pour conclure, les enjeux politiques, l'histoire et la mémoire sont divers. Ah, bah oui, mais tu ne les as toujours pas définis. Donc, ils sont divers selon les conflits. Ben, pas tellement. Hein. À travers les conflits, c'est toujours la même chose. On divise, ou ça réunit. Les politiques mémorielles et la reconnaissance, donc les politiques mémorielles dont et la reconnaissance en fait partie, hein, donc sont obligatoires dans la construction d'une mémoire collective qui puisse réunir la nation. À ce moment-là, oui. Mais cela passe aussi par la justice rendue, certes, mais c'est un autre sujet. Bon, alors, ça nous donne quoi, Maya? C'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Donc ici, je te mets 10, hein, parce que tu abordes quand même un petit peu, tu as l'intuition, hein, de la problématique, mais tu n'arrives pas à la mettre en œuvre, hein, tout simplement, parce que tu n'as pas défini le sujet. Et puis, bah, y a beaucoup de hors-sujets. Donc, tu as beaucoup travaillé, je pense. Hein, j'espère que tu n'auras pas le sentiment de ne pas être payé en fonction du temps que tu as passé à réviser. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, et bien sûr qu'il faut réviser, bien sûr qu'il faut apprendre. Et puis, j'espère que tu vas mémoriser tout ce que tu vas continuer et mémoriser tout ce que tu as déjà fait, hein, comme travail. Hein, donc, de façon à ce que ça puisse te servir. Mais ça doit te servir à réfléchir après, à analyser. Et donc, bon, c'est pas simple, hein, mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas et que tu ne puisses pas progresser.